Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média qui fête aujourd'hui sa 300e au programme. Une émission spéciale de 300 minutes, autrement dit 5 heures. Non, je déconne. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. On va beaucoup parler gastronomie aujourd'hui avec nos invités et avec l'ami Laurent Mariotte. Et avant les entrées de calories, on fera les sorties de musique de la semaine. Calogero, Camille Lelouch et James BKS. Notre info média, l'évolution des dessins animés. Nous serons avec Philippe Dana qui sort un livre consacré aux Toons et Rock Lehner, le patron de Mille Images, l'un des plus grands studios d'animation en France. Et comme disait Mickey avec la voix de Roger Carrel,
vous n'en croirez pas vos yeux quand ce sera fini.
Ce rire. Nos invités ensuite, Julien Drieux pour le succès de ses Carnets de Julie, l'émission de cuisine qui nous emmène à la découverte de terroirs. Ça a doublé l'audience depuis la rentrée. Dans le prochain numéro, une balade dans une région dont on a hélas beaucoup parlé dans l'actualité, la Vésubie. Enfin, Gauthier Capuçon, le violoncelliste, pour un nouvel album émotion très éclectique, au point que ça fait hurler les puristes. Et puis on va aussi revenir sur la série de concerts gratuits qu'il avait donné dans les petits villages l'été dernier. Ça a tellement bien marché qu'il récidive cet été et il ira en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino, évidemment. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles.
Les prises de parole de Dominique Strauss-Kahn, Emmanuel Macron et Nicolas de Taverneau, mais aussi Koh-Lanta, de la culture et un bouleversement à Hollywood.
Mais évidemment, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Pas de surprise en tête, comme chaque jeudi, deux épisodes de Balthazar ont permis à TF1 de dominer largement la concurrence. La série avec Thomas Sisley a été suivie par 5 millions de téléspectateurs, soit 24,4% du public et 23% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Alors ces scores sont impressionnants puisque depuis la semaine dernière, TF1 diffuse un épisode inédit suivi d'une rediffusion. L'inédit d'hier à lui seul a réuni 6 400 000 personnes. Derrière, France 3 est faible en deuxième position avec sa case cinéma. Le film américain inédit L'ombre d'Emily avec Blake Lively et Anna Kendrick a été suivi par 2 millions de personnes pour 9,2% de part d'audience. Et France 2 suit en troisième position avec une rediffusion du magazine Un jour un destin consacré à Valéry Giscard d'Estaing. L'émission a fédéré 1 900 000 téléspectateurs, soit 8,3% du public.
Culture Média.
Et on démarre ce journal avec l'interview d'Emmanuel Macron, interview qu'il devait donner hier et qu'il a décalé à aujourd'hui.
Oui, ça sera à 16h. Le président de la République répondra aux questions de 3 journalistes du média en ligne brut, dont Rémi Buisine. Au programme, tous les thèmes qui font l'actualité, qu'il s'agisse des violences policières, de la laïcité, de l'écologie ou encore de la génération Covid, ces jeunes qui ont eu 20 ans en 2020. Car si Emmanuel Macron a choisi brut, c'est sans doute justement pour toucher en priorité le public jeune. Sur les 13 millions de spectateurs quotidiens que compte brut en France, 60% ont moins de 35 ans. Les journalistes sélectionneront d'ailleurs des questions envoyées en direct par les internautes. C'est l'une des spécificités les plus intéressantes de cet entretien, selon le PDG et cofondateur de Brut, Guillaume Lacroix.
Il y a sans doute beaucoup de questions qui vont recouper un même thème. Et après, c'est le travail de Rémi et des journalistes de Brut de faire la sélection et de prendre les questions les plus représentatives du flot de commentaires. Évidemment, on ne pourra pas poser toutes les questions parce que je pense qu'il va y avoir des milliers de questions. Mais ça va être extrêmement intéressant. Surtout, c'est un exercice où on peut confronter le président de la République directement aux questions, quel que soit le ton de la question et la nature de la question des gens qui la posent. C'est un exercice très direct, très en prise avec la réalité des Français. C'est ce qui est pour moi le plus intéressant dans ce format d'interview.
Alors, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron répondra aux questions de Brut, mais ses interviews avaient jusqu'ici été très courtes. Il a fallu plusieurs mois de discussion entre le Média Vidéo et l'Élysée pour mettre sur pied ce grand entretien. Rendez-vous donc dès 16h sur les réseaux sociaux de Brut et sur ceux de France Info, canal 27 de la TNT.
La contre-attaque de Dominique Strauss-Kahn.
L'ancien patron du FMI annonce ce matin qu'il a donné son accord pour participer à un documentaire consacré à son parcours. Il a accepté d'évoquer toute sa vie personnelle et professionnelle, à commencer par les événements qui l'ont poussé à quitter la vie politique, sortie prévue à l'automne 2021. Dans son message, DSK insiste, c'est la première fois qu'il donne son accord pour un projet de ce genre. Il a refusé de participer à la série documentaire que Netflix mettra en ligne lundi prochain. Elle s'appelle Chambre 2806. 4 épisodes d'une heure ont été tournés et 2 de ses victimes présumées, Nafissatou Diallo et Tristan Bannon, y prennent la parole.
C'était Dominique Strauss-Kahn qui s'était exprimé sur Twitter, d'où arrivent ces informations.
Absolument.
Et à propos de prise de parole, Charles, le patron du groupe M6, Nicolas Taverneau, a donné une interview sans langue de bois hier au magazine Le Point.
Il y dénonce sans détour l'inégalité de traitement entre les chaînes de télé et les plateformes américaines comme Netflix, Facebook ou Google. Nicolas Taverneau estime qu'il est, je cite, masochiste de surréglementer les chaînes historiques européennes et dans le même temps de laisser faire les plateformes. Le patron d'M6 va même plus loin, je cite à nouveau, on a l'impression que les régulateurs frustrés de ne pas pouvoir contrôler les grands médias sociaux internationaux se vengent sur les médias historiques, fin de citation, les régulateurs apprécieront.
Le focus média du jour, c'est la programmation culturelle du groupe France Télévisions.
Ce soir, France 5 proposera en prime de l'opéra avec la flûte enchantée, un pari audacieux. En deuxième partie de soirée sur France 2, Mathieu Madénian animera Génération Paname, une émission consacrée aux nouveaux talents du stand-up français. Et le site Culture Box de France Télé retransmettra samedi et dimanche les transmusicales de Rennes. Un week-end très culturel donc, et ce n'est pas un accident. Cette mise en avant de la culture, elle est d'abord là pour aider les artistes et donner accès aux téléspectateurs, alors que les salles sont fermées en raison de la crise sanitaire. Elle faisait aussi partie des engagements de Delphine Ernotte pour son deuxième mandat à la tête de France Télévisions. Michel Field, directeur culture et spectacle vivant de France Télévisions, a détaillé à Louise Bernard sa feuille de route pour 2021.
Là, ce sur quoi je travaille, c'est qu'il y ait au moins une proposition de spectacle vivant une fois par semaine en prime time sur une de nos antennes. Du théâtre grand public, des spectacles un petit peu plus pointus pour les deuxièmes parties de soirée ou pour la case France 5. Et puis, il y a un combat aussi qui me tient à cœur, c'est que je veux sortir aussi d'une culture qui soit purement, j'allais dire, classique ou patrimoniale, et je veux y faire rentrer les formes les plus contemporaines de la culture, que ce soit les cultures urbaines, le hip-hop, le stand-up. On essaye de parler à tous les publics.
Et le stand-up, justement, ça marche plutôt bien. Vendredi dernier, l'émission Génération Paname a réuni 1 200 000 téléspectateurs en deuxième partie de soirée sur France 2. C'est un bon score. Ça n'est pas toujours le cas pour d'autres types de spectacles, mais c'est un choix assumé par Michel Field.
Imaginez une énorme salle remplie par 400 000 spectateurs pour les Fourberies de Scapin. C'est absolument énorme et gigantesque. Et sans doute Molière n'a-t-il jamais eu autant de gens qui le regardent en même temps. C'est vrai qu'à l'aune du public de la télévision, c'est pas un gros score. Mais voilà, on va assumer des disparités d'audience. On sait par avance que le théâtre et encore plus l'opéra ne font pas salle pleine au sens télévisuel du terme. Mais si elles permettent à des dizaines, voire des centaines de milliers de téléspectateurs de prendre contact avec une œuvre du répertoire, alors il ne faut pas hésiter.
Le focus programme du jour, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Je crois que c'est ce que vous avez prévu de regarder ce soir, Charles, c'est ça ?
Oui, c'est la finale de Koh-Lanta. Je dois bien vous avouer que j'en ai pas loupé une depuis 2003. Ce soir, c'est la 26e saison du jeu d'aventure de TF1, produit par ALP, qui s'achève. Rendez-vous à 21h10 pour la mythique épreuve des poteaux, où s'affronteront Brice, Alexandra et Loïc. Puis, retour en direct à Paris pour le dépouillement des votes du jury final. Koh-Lanta, vous le savez, a été reboosté de manière significative par le premier confinement et la saison actuelle a une nouvelle fois signé d'excellentes audiences. 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne chaque vendredi, soit 26% de part d'audience, et ça c'est sans compter le replay. Au-delà de ces audiences, Louise Bernard a demandé au producteur de l'émission, Julien Magne, quel bilan il tirait de cette édition.
Un très bon bilan, ce qu'on réussit plutôt pas mal à faire depuis plusieurs saisons maintenant, c'est d'apporter chaque année, pour chaque nouvelle saison, des nouveautés. Le fait d'avoir cette année un Koh-Lanta autour des quatre terres, des quatre grandes régions françaises, a été, je crois, plutôt bien accueilli par le public. Quatre équipes, quatre tribus, mais qui n'étaient pas quatre tribus vaines ou théoriques, mais des tribus basées et fondées sur un terroir, une culture commune. En tout cas, on en est très content de cette saison. Pour la prochaine saison, on aura aussi des nouveautés. Vous dire, on le refera, les quatre terres, ou on ne le refera pas, c'est peut-être un peu tôt.
Et impossible de parler de cette saison sans évoquer Bertrand Camel, ce candidat emblématique décédé d'un cancer fulgurant du pancréas au mois de septembre. Un fonds spécial Gala a été créé en son honneur pour aider à la lutte contre cette maladie. Ce soir, lors de la finale, Denis Brognard lancera un appel aux dons. Vous pouvez d'ores et déjà participer via le site pour bertrandcamel.fr.
Cinéma avec une annonce majeure du studio Warner hier.
Oui, c'est une véritable révolution. Tous les films Warner sortiront simultanément sur deux supports aux États-Unis l'an prochain, sur les écrans de cinéma traditionnels et sur HBO Max, le service de streaming du studio. Ça concerne pas moins de 17 films, notamment Dune de Denis Villeneuve, mais aussi Matrix 4 ou encore Godzilla vs Kong. Ils seront tous disponibles sans surcoût pour les abonnés au service pendant 31 jours. Warner généralise la stratégie qu'il a imaginée pour la sortie de Wonder Woman 1984 dans 15 jours. On en a parlé le mois dernier dans le journal. Ce blockbuster très attendu sortira en salle aux États-Unis le 25 décembre et le même jour sur HBO Max.
Et on termine ce journal avec un partenariat d'une ampleur inédite entre les radios du groupe Lagardère, dont Europe 1, et la plateforme de streaming Deezer.
Il est entré en vigueur hier. Europe 1, Virgin Radio et RFM sont désormais disponibles en direct sur Deezer. Leur web radio et leur podcast aussi, à commencer par celui de Culture Média. Ah. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des programmes existants, des playlists éditées par les stations sont aussi prévues et des podcasts seront créés exclusivement pour Deezer par les équipes de Lagardère.
Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, on va parler d'un genre audiovisuel qui traverse les générations avec toujours autant de succès, les dessins animés. Nous serons avec le papa du lapin Molang et président du studio d'animation Millimage, c'est Rockliner, et puis un expert des dessins animés, des Toons, Philippe Dana. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Tiens, pour une fois, on va parler de deux lapins. Ce sont deux personnages, deux lapins donc, qui à eux seuls résument et synthétisent une grande partie de l'histoire des dessins animés. Le premier, c'est Bugs Bunny.
Watch out, Doc.
L'une des vedettes des cartoons de la Warner, et le second, c'est Molang. Un lapin blanc qui piaille, conçu en France et diffusé dans le monde entier, deux icônes qui vont nous aider à comprendre l'évolution et le poids des dessins animés dans les médias. Bonjour Philippe Dana.
Bonjour Philippe.
Vous êtes Monsieur Sacartoon pour des millions de Français, en tout cas pour moi. L'émission a été diffusée pendant 22 ans en clair sur Canal. Les Toons, c'est vous qui les avez popularisés en France. Vous leur rendez hommage dans votre dernier livre Au pays des Toons, c'est publié chez Kero. J'ai une petite question perso. Quel effet ça vous fait d'être ici dans ces locaux où se trouvait Canal+, où se trouvait votre bureau?
C'est la première fois que j'ai remis les pieds ici depuis peut-être 20 ans. C'est très curieux, c'est une drôle de sensation, mais ça a été très bien aménagé en tout cas.
Rockliner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'heureux papa de Molang, vous êtes le président de Millimage, le studio qui diffuse et qui dessine ce petit lapin dans des millions de foyers dans le monde. Et vous venez de lancer la quatrième saison. En deux mots, Rockliner, à qui s'adresse Molang? À partir de quel âge on peut le regarder?
Alors, pour les télévisions, c'est plutôt un programme préscolaire.
Préscolaire,
oui. Et puis on est dans 200 pays dans le monde. Mais on s'est aperçu d'une chose, c'est que il y a une population très très importante de jeunes adultes qui regardent Molang au travers des réseaux sociaux. Et là, le phénomène est dingue parce que ça nous a surpris et en même temps, c'est là qu'est la croissance exponentielle.
Ouais, la cible, c'était les 3-6 ans. Et là, Antoine Janton, notre rédac-chef, me dit que c'est 11 milliards de vues sur les GIFs. 11 milliards, c'est plus que l'humanité entière. Alors, Molang ne parle pas vraiment. C'est un peu comme les mignons, les petits personnages jaunes de la série de films d'animation Moi, Moche et Méchant. Ce sont que des onomatopées que prononce Molang ou est-ce qu'il y a des phrases?
Non, en fait, il y a des phrases et on a constitué un vocabulaire petit à petit. Ça s'appelle le molangais. Et les aficionados de la série commencent à reconnaître des mots et on peut s'exprimer en molangais maintenant.
Oui, alors la quatrième saison a été lancée il y a près de 3 semaines. Parmi ces inédits, il y a un épisode de Noël, comme n'importe quelle grande série ou n'importe quelle série de grands... On comprend qu'il n'est pas content. C'est quoi les nouveautés de cette quatrième saison?
Alors, dans la quatrième saison, Molang et Piu Piu...
Ah oui, il y a Piu Piu, je l'avais oublié.
Vivent les aventures humaines de tous les temps, et de toutes les époques et de tous les endroits du monde. Et en fait, toutes ces histoires qui, dans la réalité, se sont bien ou pas très bien passées, finalement, avec Molang et Piu Piu, tout se termine bien parce que ils ont cette aptitude au bonheur, ils ont cette compréhension entre eux, cette empathie qui leur permet de tout positiver et tout se termine dans beaucoup d'amitié et de bonheur avec Molang.
Philippe Dana, est-ce que Molang est un toon ?
Molang est un personnage de dessin animé. Est-ce que c'est un toon? Ça, oui, on peut dire que c'est un toon.
C'est quoi la différence? C'est quoi la définition d'un toon, celle que vous leur donnez?
Moi, je suis parti d'une histoire de cinéma et donc de personnages qui ont été inventés il y a déjà près d'un siècle par des gens extrêmement connus comme Walt Disney, un peu moins connus mais très pertinents comme Tex Avery, Chuck Jones, Fritz Feeling. Ils ont fait des personnages de cartoons parce que les cartoons, c'était des films qui étaient diffusés dans les salles de cinéma. C'est ce qu'Eddie Mitchell a très bien montré avec l'émission La Dernière Séance. C'est-à-dire que c'est des films qui étaient destinés à être passés avant les grands films. Et ils étaient faits, c'est peut-être la différence avec Molang, ils étaient faits vraiment pour un public d'adultes. Ce sont des adultes qui créaient des personnages avec des sujets qui les faisaient marrer autour d'eux. Pour des adultes, mais évidemment, comme les gens allaient au cinéma en famille, évidemment, les enfants voyaient les personnages. Donc la différence entre toon et pas toon, je ne saurais pas vous la donner très précisément, mon cher Philippe.
Dans votre livre Au pays des toons, vous fixez une mission, inviter tous les toons à l'anniversaire de Bugs Bunny, qui fête ses 80 ans cette année. Donc vous partez à leur recherche, à leur rencontre. Il y a le Coyote, il y a Popeye, il y a Daffy Duck, Voyage imaginaire, qui vous donne l'occasion de revenir sur l'histoire de ces personnages. Premier exemple avec Betty Boop, c'est la première femme vedette d'un dessin animé.
I'm on my way to Grimm's. Oh, we've got good company. It's the only place to be. Over at Grampy's house. Oh, I'm on my way to Grampy's. For he always treats me nice. Always something on the ice. Over at Grampy's house.
Là, on est au début des années 30 et dès son apparition, Betty Boop incarne une femme libre, mais ça va vite changer.
Oui, à cause du code Hays. Le code Hays, c'est ce code qui régit le cinéma américain, qui régit Hollywood, à cause de grands scandales qui ont éclaté à la fin des années 20, notamment le scandale de Fatty Arbuckle, qui avait été accusé d'avoir violé et tué une femme dans un hôtel à San Francisco. Et donc, le code
Hays. Quel rapport avec Betty Boop?
Mais le rapport avec Betty Boop, c'est que le code Hays régit tout le cinéma et que quand Betty Boop démarre, le code Hays n'est pas encore en application. Et donc Betty Boop est créée par les frères Fleischer qui sont installés à New York, dont les animateurs travaillent dans le Bronx, à Brooklyn, ils viennent de la rue, ils ont le langage de la rue, un langage très cru. Et Betty Boop, à ses débuts, fréquente les musiciens de jazz, Cab Calloway, Louis Armstrong, arrive le code Hays. Et là, alors à ses débuts, elle est particulièrement sexy. Dès que le code Hays arrive, on lui rallonge sa jupe, on l'affuble d'un chien, elle est femme au foyer et elle est totalement transformée. Ça, c'est l'histoire de Betty Boop.
Vous racontez également l'histoire des grands studios, Philippe Dana, Disney, ses deux grands atouts, des dessinateurs de génie qui créent Mickey et un appétit pour l'innovation. C'est Disney qui sort le premier dessin animé sonorisé, ça s'appelait Steamboat Willie. On est en 1928, Mickey sifflote à la barre d'un bateau à vapeur. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'était une révolution.
Ben, c'est une révolution pour le cinéma, puisqu'on passe d'un seul coup des films muets aux talkies, aux films parlants. Et Walt Disney, son coup de génie, il y avait déjà eu des films parlants un petit peu avant. Il y avait eu un film de long métrage de la Warner qui s'appelle Le Chanteur de Jazz, qui marque l'évolution du muet vers le parlant. Mais en dessin animé, même si les frères Fleischer avaient fait des tentatives, c'est la première fois que Disney cartonne, pour le coup. C'est à Noël 1928, parce que les spectateurs sont tellement ébahi de voir le personnage se bouger avec du son, les paroles, etc., qu'il réclame de voir le dessin animé plusieurs fois. Et Mickey prend cette place incroyable de numéro un du cinéma, là où Chaplin était celui des années 20. Mickey devient le personnage vedette des années 30.
Numéro un du cinéma, Mickey. Donc on ne parle pas d'un petit épiphénomène. Est-ce que les toons font de la thune? On en parle juste après ça avec Rock Lehner et Philippe Dana. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Rock Lehner, c'est le patron, le président de Millimages, et Philippe Dana qui a publié Au pays des toons chez Kero. On parle de dessins animés, on parle des toons. Philippe Dana, vous revenez dans votre livre sur l'histoire de la Warner et de ses deux séries de dessins animés, les Merry Melodies et les Looney Tunes, Bugs Bunny, Daffy Duck, Titier Grobinet, Bip Bip, le Coyote entre autres. Impossible d'oublier ce générique. Générique qu'on peut passer en entier, ça fait seulement 15 secondes. Ça, c'était également le générique de sa cartoon. Autre générique marquant, celui de la série des Happy Harmonies, de la MGM cette fois.
Happy
Ça, c'était le générique de Tom et Jerry, entre autres. On a l'impression qu'ils se courent après. Deux noms dont vous racontez l'origine dans votre livre, Tom et Jerry, Philippe Dana. Comment ont-ils été choisis ?
Par un concours interne au sein de la métro Goldwyn-Mayer, au sein du département animation. William Hanna et Joe Barbera, les créateurs, ont demandé au personnel comment ils voulaient appeler les personnages. Les deux personnages sont assez simples, hein, Tom et Jerry, même si Tom s'est d'abord au départ appelé Jasper. Je voulais juste faire un petit point, parce qu'on parlait, est-ce que les Toons font de la thune, et on parlait de Mickey juste avant la coupure pub. Mickey, donc on parle d'une petite souris qui naît en 1928. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Walt Disney Company, vraisemblablement pour 2020, ce sera 70 milliards de dollars.
On va parler, vous inquiétez pas, on va parler d'argent. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On va parler d'argent. Je voulais savoir comment était né le nom de Molang Rocklener.
Alors Molang, vous savez, la créatrice graphique est coréenne. Mmh. Et Molang, ça veut dire tout doux, comme lorsqu'on pince la peau de la joue d'un bébé, on dit la peau est toute douce. Voilà, Molang, ça veut dire tout doux.
En coréen.
En coréen. On a gardé le nom parce que c'est sympathique, ça sonne bien. Ça plaît.
Ouais, on est loin des courses-poursuites. Vous ne produisez pas que Molang chez Millimage, et également des dessins animés pour des enfants un peu plus grands, pour des ados. Est-ce qu'il y a des thèmes dont vous ne voulez pas parler dans vos productions ?
Alors, Millimage, on est plutôt orienté vers la comédie.
Ouais.
Et on n'a jamais fait de série de dessins animés avec des bons et des méchants.
Ouais, parce que quand on regarde les Toons, ils n'arrêtent pas de se courir après, de se faire du mal, ils veulent se bouffer. Tom et Jerry, Bip Bip le coyote, ils ont des armes, des bombes.
C'est encore possible aujourd'hui. C'est un style qui marche, mais c'est un style différent. Disons que c'est,
est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que maintenant, on pourra encore faire un dessin animé avec un coyote qui a un couteau, tuer quelqu'un, un chat qui veut manger une souris?
Oui, absolument, on en fait. Mais on ne met pas de couteau, on ne met pas de bombe, on ne met pas de... Mais des gens qui se tapent dessus, oui, ça se fait.
On en vient aux milliards. L'animation en France marche très bien. C'est le premier genre audiovisuel à être exporté devant les fictions. Vous en savez quelque chose, Rocklener, Molang est vendu dans combien de pays?
200, à
alors,
peu près.
Je veux dire, ça me fait marrer parce qu'on a vu ce chiffre et on s'est rappelé qu'il y avait seulement 197 pays à l'ONU.
Non, mais parce
ça veut
que
dire
ce
que vous vendez,
200...
vendez vos dessins animés dans des pays qui n'existent pas.
Non, ça veut dire que c'est 200 territoires. On parle en termes de territoires plus qu'en termes de pays par l'ONU.
Plus sérieusement, est-ce qu'on a une idée du poids de l'animation dans l'industrie cinématographique, audiovisuelle, dans le monde? Et ensuite, la position de la place de la France?
Oh, je ne sais, franchement, je ne sais pas, parce que ça dépend du périmètre. Et comme le disait Philippe, le chiffre d'affaires de Disney, c'est 70 milliards. Et donc, ça comprend quoi? Je ne sais pas.
Le chiffre en d'affaires
cas,
de Millimage?
12 millions.
12 millions. Vous êtes à quelle place en France?
C'est petit. Bon, on fait partie des 3, 5 studios qui comptent en France. Mais on compte surtout au niveau mondial parce qu'effectivement, notre exposition est très importante et Molang fait un parcours absolument incroyable. Mais il y a une chose importante à dire dans les modèles économiques, c'est qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle a transcendé son premier média qui est la télévision.
C'est-à-dire
six personnes sur 10 qui regardent ou qui connaissent ou qui utilisent Molang viennent des réseaux sociaux. Ce sont des jeunes adultes, ce ne sont plus des enfants qui regardent les programmes préscolaires de la télévision.
Philippe Dana, à ce propos.
Sur la propriété intellectuelle, ce qui est très intéressant, c'est l'information qui est tombée cette nuit, c'est-à-dire le fait que Warner va sortir ses films 2021 à la fois dans les salles de cinéma et en streaming.
C'était dans le journal de Charles Decamps.
C'est toute l'importance des plateformes de streaming, donc HBO Max pour ce qui est de Warner, Disney Plus pour ce qui est de Disney. Et avec quoi nourrissent-elles leurs plateformes? Avec la pérennité des personnages. Donc chez Warner, par exemple, les Looney Tunes font partie des actifs et des actifs qui sont déterminants pour le succès de leur plateforme. Ça, c'est très intéressant.
Alors, très étrange, vous qui présentiez une émission sur les dessins animés à la télé, on retrouve ces personnages en grande majorité sur les plateformes et pas à la télé, pas sur les chaînes. Pour quelle raison?
Alors ça, je ne saurais le dire. D'abord, c'est vrai qu'on peut aujourd'hui voir tous les cartoons en tapant sur Internet, on les voit très facilement, mais on les voit aussi sur les plateformes. Et sur les plateformes, ce que je voulais souligner, c'est que depuis le printemps dernier, Warner a recréé des séries Looney Tunes avec des épisodes inédits qui sont diffusés sur cette plateforme américaine qui s'appelle HBO Max. Et d'ailleurs, qui sont un petit peu édulcorés par rapport à celles de départ, puisque contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, Elmer ou Sam le Pirate n'ont plus d'armes à feu dans les nouvelles séries Warner. Et ça, c'est une volonté délibérée, aujourd'hui, de passer à quelque chose d'autre. Parce que l'époque est différente, rappelons-nous. Les personnages dont on parle, ils ont 80, Betty Boop, 90 ans. Mickey, presque 100 ans.
Une des raisons pour lesquelles Molang ne parle pas, c'est d'abord parce que vous vous adressez aux très jeunes enfants, mais c'est aussi, ça vous fait faire des économies de doublage. Oui. Est-ce que c'est entré en ligne de compte dans le processus industriel de création de Molang, Rockliner?
Alors, les économies, oui, un peu, mais l'avantage, c'est surtout qu'on est capable de diffuser une nouvelle série au même moment dans le monde entier, sans attendre toutes les opérations de doublage qui, quelquefois, sont extrêmement longues, et ça dépend des pays. Mais donc là, il y a une concordance, il y a un momentum qu'on peut saisir dans l'utilisation, dans l'exploitation du personnage.
J'ai cru que vous alliez dire un moment Tom et Jerry.
Non. Et pour revenir sur le modèle économique, je pense que le modèle économique aujourd'hui, il est basé sur les propriétés intellectuelles, comme le disait Philippe, et le modèle économique des propriétés intellectuelles, ce sont plus les droits dérivés que les programmes audiovisuels. Et d'ailleurs, à cet effet...
Vous gagnez plus d'argent avec les mugs, c'est qu'on voit quand on va dans les Euro Disney, on vend des produits dérivés, on vend de tout, des pantoufles, des casquettes, des t-shirts.
Là,
de Disney.
On vient de lancer Molang.com depuis hier soir, donc effectivement, c'est le modèle économique futur de Molang, mais enfin, maintenant... on parlait de propriétés intellectuelles qui ont 100 ans, ou 80 ans, ou 50 ans. Molang a 5 ans.
Ouais.
Et Molang a une carrière absolument incroyable pour sa jeunesse.
Et quand même une certaine notoriété, même une notoriété certaine, Rockliner, et vous mettez cette notoriété au service de la lutte pour la protection de l'environnement. Molang apparaît dans la campagne de communication de l'association internationale Race for Water, qui se bat pour protéger les océans. Est-ce que là, vous offrez l'image de Molang, ou est-ce que vous la... monétiser.
Non, c'est pas de la monétisation. On offre l'image de Molang qui sert effectivement comme média pour ses expéditions scientifiques, et ça sert de média pour exposer aux enfants du monde entier comment protéger les océans.
Merci beaucoup Rockliner, président de Millimage. Merci beaucoup Philippe Dana, grand spécialiste des Toons, au pays des Toons. Vous avez le livre avec vous, vous pouvez le montrer sur europe1.fr.
Oui,
on a des caméras.
C'est un récit joyeux et cinéphile.
C'est publié. Elle est là, la caméra. Elle est partout.
Elle est partout.
C'est publié chez Kero. Merci d'avoir été avec nous dans un instant.
Philippe.
Bip bip. Nous serons avec la présentatrice, Julie Andrieux, qui sillonne la campagne avec sa belle voiture rouge. Elle va nous parler des nouveaux numéros et des très bonnes audiences de son émission Les Carnets de Julie sur France 3. Ce sera dans Culture Média, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Julie Andrieux.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journalière, cuisinière, présentatrice. C'est comme ça que vous présentiez en trois mots un métier que vous avez vous-même inventé. On vous avait vu dans Côté Cuisine, une quotidienne sur la 3, sur la 5, dans Fourchette et Sac à dos, et aussi dans C'est à vous à l'époque à Alessandra Sublet. Vous êtes désormais sur France 3 avec une émission qui porte votre nom. Ça s'appelle Les Carnets de Julie. C'est le samedi à 16h. C'est une hebdo. Il y a une trentaine de numéros par saison. Et vous en êtes déjà à la 9e saison. Vous me faites un petit signe avec deux. Je vous en entends très mal. C'est quoi le principe et pourquoi les carnets ?
Pourquoi les carnets ? Parce que je note les recettes sur mon petit carnet. C'est une façon de dire que l'on va au contact des gens. On va rencontrer des gens qui ne sont pas des professionnels de la cuisine.
Ouais.
Alors évidemment, les agriculteurs le sont. Mais la plupart du temps, ce sont des amateurs qui nous transmettent leurs recettes de famille, de village. Et l'idée est vraiment de découvrir une culture locale. Bien au-delà d'ailleurs d'un département. Ce n'est pas une segmentation administrative. C'est vraiment en général des régions culturelles, des pays de France, comme on disait autrefois. Et voilà, et chacun me transmet un peu une recette qui a du sens pour eux.
Alors, vous allez à la rencontre de producteurs dans la France profonde. C'est un format qui existe déjà. Il y avait les escapades de Petit Renaud, il y a Échappée Belle sur la 5, Cuisine des terroirs sur Arte. Qu'est-ce qui fait votre spécificité ?
Oh bah, de ce que je sais, Échappée Belle, en plus on travaille un peu avec les mêmes équipes, ne sont pas spécialisés sur la cuisine.
Mmh.
C'est une émission que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais
ils goûtent toujours des trucs et à la fin ils disent « c'est délicieux ». C'est toujours bon. Dans toutes ces émissions, vous remarquez, c'est toujours
beaucoup.
Bon.
Non, écoutez, j'en sais rien. Je vais vous dire, je ne les regarde pas beaucoup non plus parce que, comme vous sans doute, on a des métiers qui nous happent beaucoup. Moi, il me reste peu de temps pour mes enfants et il est entièrement consacré à eux. Donc, qu'est-ce qui me différencie pour prendre l'exemple de Petit Renaud ? Petit Renaud, justement, elle est au contact des chefs.
Ouais.
Et comme je vous le disais, nous, c'est vraiment essentiellement des amateurs, parce que c'est une cuisine populaire, une cuisine ménagère qu'on veut mettre en avant.
Vous avez le temps, quand même, de regarder les audiences ?
Ça fait rire Pierre-Antoine Capeton, mon producteur, parce que c'est toujours lui qui m'annonce les audiences. En fait, il me les annonce quand elles sont bonnes.
Ouais.
Mais non, je suis pas une accro des audiences.
Vous,
oui,
vous
il paraît qu'elles sont bonnes. Du coup, maintenant, je les regarde. Mais non, oui, elles sont bonnes. Elles sont bonnes en ce moment.
Moi, je
on
peux vous le dire. Le 28 novembre, vous étiez leader national en 4 ans et plus. Au moment où vous passiez 1 115 000 téléspectateurs, 10,4% de part d'audience. Et la production dont Troisième œil, Pierre-Antoine Capeton, est ravi. Les numéros de novembre font le double des numéros de septembre en audience et en part d'audience. Alors, pas de carnet de Julie ce samedi pour cause de Téléthon. Ça sera samedi prochain, le 12. Cette fois, vous êtes allé dans la vallée de la Vésubie, je le rappelle. Vallée qui a subi une énorme inondation qui a causé la mort. 7 morts, 11 disparus. Le village de Saint-Martin-Vésubie en grande partie détruit. 7 morts et 11 disparus dans la vallée de la Vésubie et dans celle de la Roya. Vous avez évidemment tourné avant l'inondation, mais pourquoi cette diffusion maintenant ?
Oui, effectivement, l'émission, c'est le hasard, mais l'émission était programmée pour être diffusée le lendemain de la catastrophe. Donc évidemment, il nous paraissait complètement inapproprié de diffuser ces images de bonheur, de gens quand même relativement heureux, rayonnants, alors que la ferme dans laquelle nous avions tourné avait été totalement ravagée. Heureusement, il n'y a pas eu de décès, mais ils ont subi de lourdes pertes matérielles. Et ce sont déjà des gens dont l'économie est très fragile, comme vous vous en doutez. Donc on l'a décalé. Et puis,
vous allez mettre un petit bandeau. Moi, j'ai vu toute l'émission, mais il n'y avait pas de remarques. Vous allez faire une petite adresse aux téléspectateurs avant ?
Ah, ça, c'est vraiment la décision de la chaîne. Je ne sais pas. Je ne crois pas, mais c'est l'occasion de le faire et de leur tirer mon chapeau, parce que c'est une émission... Enfin, je prends beaucoup de plaisir à toutes les émissions, évidemment, mais j'ai eu un vrai, vrai coup de cœur pour ces gens, d'abord, pour cette région. Les Alpes-Maritimes, c'est vrai qu'on a tendance à imaginer à juste raison une région très construite. Nice, Cannes, la Côte d'Azur. Et en réalité, à 30 minutes de Nice, vous arrivez dans un endroit totalement vierge, au sommet du monde. C'est merveilleux.
C'est vraiment magnifique.
Et il faut y aller, il faut les aider, il faut retourner à la ferme auberge.
Ah bah, mais c'est détruit, on va avoir
produits.
Du mal à y aller.
Alors, non, ils sont en train de reconstruire, ils vont vite.
Vous parlez de cœur, et ça commence dans la ferme de Nadine et René. Ils ont installé leur ferme à Utel il y a plus de 40 ans. Ils sont épaulés par leur fille. Comment vous les choisissez ?
Et leur gendre, absolument.
Comment les choisissez ?
Il y a une équipe pour ça. Moi, je ne fais pas tout dans ces carnets, même s'ils s'appellent les carnets de Julie. On a une équipe d'enquêtrices.
Je vais vous dire ce qui m'a frappé. D'enquêtrices. Vous connaissez évidemment l'émission L'amour est dans le pré. Sauf que là, ce n'est pas de la télé. Et surtout, ça dure. Vous avez demandé à Nadine de vous raconter sa rencontre avec René.
Raconte-moi, Nadine, comment tu atterris ici, alors ?
Ah, comment j'ai atterri ? On peut dire ça, atterrir. Je suis venue à un pèlerinage en Pentecôte et, en 1979. J'ai rencontré un berger.
C'était René ?
C'était René. Et il était là avec son troupeau, sa chemise à carreaux, son chapeau.
T'es tombée sous le charme ?
Et totalement, parce que en 20 heures, on a décidé de se marier. Je ne suis plus partie.
En 20 heures ?
Voilà.
Vous avez pris la décision de vous marier.
Ah, voilà.
C'est le conte de fées des collines. Incroyable.
Ils se sont rencontrés en 79, ils sont toujours ensemble. Rien qu'en soi, ça ferait une émission.
Il y en a beaucoup quand même, vous savez, notamment parmi les agriculteurs.
Qui se sont rencontrés en 20 heures ?
Ah oui, en 20 heures non, mais qui continuent de vivre ensemble.
Voilà. Autre image qui frappe, les personnages choisis vivent près de la nature. Ils cultivent les légumes du jardin, les poules de leur élevage. Mais ils sont très très bien équipés, ils ont le matériel le plus moderne. Il y a un type qui fabrique lui-même ses couteaux, c'est le gendre. Il a un four à gaz.
Oui.
Les gens ont des tournebroches électriques dans le jardin. Ils ont des sondes électroniques pour mesurer la température à l'intérieur du gigot. On n'est pas au Moyen-Âge, hein. On est à la fois au 19e siècle et au 21e siècle. Et je me suis dit, c'est magnifique ce casting.
C'est vrai, c'est très justement perçu. Ils concilient les savoir-faire, un respect des traditions qui les ont vraiment construits et façonnés culturellement. Et en même temps, ils sont en prise avec l'actualité, avec le monde moderne, et ils l'utilisent au mieux. Ils vendent par Internet aussi. Ouais. Ils reçoivent des gens qui viennent du monde entier grâce au réseau des fermes auberges.
Vous savez ce qu'on fait quand on regarde l'émission ? On essaie de lire le nom de la marque, si vous n'avez pas trop le droit de la dire.
Oui,
on
est
trop...
très contrôlé.
C'est vraiment dommage.
La marque, quelle marque, pardon ?
La marque des gens, par exemple, quand ils font des confitures, on a envie de connaître, on a envie d'acheter les mêmes confitures.
Mais il faut aller sur notre site. Là, tout est mentionné, bien sûr. Il y a toutes les références, les coordonnées. Et en général, on peut tout commander à distance, ce qui est important pour préparer Noël. Par exemple, vous me parlez d'Hervé le Coutelier. Ce n'est pas son métier, puisqu'il est avant tout agriculteur. Mais il fait des couteaux magnifiques pour son plaisir. Et voilà, et vous pouvez lui commander.
Voilà. Pardonnez-moi, je suis obligé de vous couper.
Mais oui.
On marque une pause, Julie Andrieux. À tout de suite, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julie Andrieux qui incarne les carnets de Julie. Il faut le permis B pour présenter les carnets de Julie. Vous êtes avec votre petite voiture.
Ouais, j'ai le A, j'ai le B.
Voilà. Dont on a vu la réparation dans une autre émission, dans Vintage Mécanique.
C'est vrai, absolument.
Parce qu'elle était tombée en panne.
Elle en a bien besoin, c'est vrai. C'est une vieille personne, comme moi d'ailleurs. Voilà. On est à peu près de la même année.
Oh, dis donc, vous êtes de quelle année ?
74.
Oh, voilà.
Elle doit être dans ces eaux-là, peut-être un peu avant.
Je ne ferai aucune mauvaise blague. ça sera samedi 12 décembre et non pas ce samedi, parce que ce samedi, c'est le grand week-end du Téléthon sur France Télévisions. Vous allez voir des endroits tous plus beaux les uns que les autres, avec des gens absolument absolument attachants, qui mangent, qui déjeunent, qui prennent l'apéro, ça a l'air absolument délicieux,
et
la limite du genre.
Et qui vivent surtout.
Justement, on va parler de cette vie, c'est la rançon de la gloire, la limite du genre. Une fois que vous faites l'apéro en hauteur, il y a tout le monde qui est là, il y a des plats sublimes, des bons vins et surtout une vue à couper le souffle. On écoute la tablée.
Voilà. Allez, chin.
Parce que moi j'ai soif, hein, je vous le dis. Hein.
Ouais. Allez, chin, à cette merveilleuse journée.
Ouais, et à cet endroit exceptionnel quand même. Hein. Faut pas le dire trop fort parce qu'après vous allez être envahi. Hein.
C'est à la limite du genre. Vous savez, quand il y a 1 million de personnes qui regardent la télé, qui regardent à la télé la vie de rêve dans un village de 200 habitants, ça peut ensuite poser des problèmes.
Ouais, alors attendez, la vie de rêve, si on les fait parler un petit peu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. C'est vrai, quand je fais comme moi, on vient se poser 3 jours comme ça et on profite du meilleur. Mais derrière, la vie d'un agriculteur, que ce soit dans la Vésubie ou ailleurs, c'est quand même, voilà, c'est difficile.
C'est très, très intéressant ce que vous dites là, parce que j'avais prévu une séquence justement à ce sujet-là et vous n'éludez pas les problèmes. Mais déjà, juste ce problème-là, que connaissent bien les gens qui font l'émission Le plus beau village de France, parfois ils sont envahis. On voit un endroit beau comme ça, on a tous envie de monter dans le village, ouais. Sauf que s'il y a 400 voitures qui arrivent, c'est pas
surtout,
très agréable.
Surtout en ce moment, il n'y a plus de route, enfin, on est en train de les reconstruire. Oui, mais c'est important de savoir que peut-être dans un an ou à un autre moment dans votre vie, vous le mettez dans votre petit carnet à vous. Et c'est vrai que c'est un lieu qui mérite vraiment une visite. Je pourrais presque dire ça de tous les endroits où on est allé. Mais cet endroit, comme je vous l'ai dit, parce que ce département, finalement, est quand même globalement très urbanisé. Et là, c'est une petite pépite, finalement, à la frontière de l'Italie.
Alors, vous l'avez dit, et je l'ai constaté, vous n'éludez pas les problèmes. On n'est pas au pays de oui-oui et des bisounours. Vous allez retrouver, par exemple, les derniers villageois qu'ils cultivent la terre, qui font de l'élevage, ils sont sur les hauteurs de cette vallée de la Vésubie. Il y a un grand déjeuner dans lequel, c'est toujours le déjeuner final de l'émission, dans lequel chacun raconte ses joies, ses peines, ses problèmes. Et tout d'un coup, c'est ça qui est très intéressant, vous sortez de la carte postale, parce qu'en plus des animaux, il y a les prédateurs.
Est-ce qu'il y a beaucoup de paysans comme vous dans la vallée ?
Il y en a un petit peu sur la partie haute de la vallée.
La partie haute. Nous, ici, on est les derniers des Mohicans. Hein, donc,
on doit être... une quinzaine à en vivre vraiment, peut-être.
Oui.
Tu penses que c'est lié à la géographie et à l'inaccessibilité relative aujourd'hui, mais de l'endroit. Oui. Il faut dire que cultiver comme ça, il faut avoir les moyens, puis il faut avoir le savoir-faire aussi. Hein,
bah, cultiver, c'est vraiment étroit.
Voilà. Pas d'accès. Ouais.
Et donc, on ne peut pas moderniser particulièrement. On fait beaucoup de choses à la main. Donc on produit moins, les surfaces sont difficiles à clôturer. Tous, on a des problèmes ici. Vous avez les rapaces, les sangliers, les loups. Moi, j'ai le chevreuil, les cervidés.
Les rapaces, vraiment ?
Les rapaces, oui. pour la volaille, c'est un gros souci.
C'est-à-dire, ils viennent voler les volailles ?
Ah, ils partent,
tout à l'heure.
Ils partent avec les volailles ?
Les rapaces qui mangent les volailles, on voit jamais ça dans les autres
émissions.
Alors moi,
je l'ai vu parce que ça s'est passé pendant le repas. Alors,
c'est pas vrai.
Il se trouve que le cadreur était évidemment plus focalisé sur nous que sur le poulailler. Mais oui, il y a un rapace qui est venu prendre un petit poussin pendant le repas parce qu'on était juste à côté du poulailler. Donc c'est une réalité. Alors les sangliers, évidemment, ça c'est un vrai, vrai problème parce qu'il y a eu pas mal de mutations génétiques et c'est un problème pour tous les agriculteurs en France. Et là, il se trouve qu'en plus, on est en montagne. Et quand il disait c'est difficile de cultiver, il faut expliquer que c'est très, très, très montagneux. C'est pour ça que c'est beau aussi.
Ouais.
La vallée de la Vésubie. Et donc, ce sont des terrains très en pente avec ce qu'on appelle des restanques, donc, qui ont été façonnés par l'homme depuis des millénaires en terrasses. Mais ces terrasses sont très étroites, donc impossibles à mécaniser.
Je veux dire, ce qui m'a intéressé dans votre émission, c'est que normalement, quand il y a une séquence comme ça, dans les autres émissions, elle est coupée au montage. Et vous la gardez.
Ah oui, on en garde. On ne peut pas tout garder, mais c'est vrai qu'il y a, quoi ? Il y a 3 semaines, on est parti du côté de Gruissant, dans l'Aude, et avec un pêcheur génial d'ailleurs, Jean-Baptiste, qui nous a fait une soupe de petits crabes. Et alors, il a arraché les pattes une à une. J'ai manqué de tomber à la renverse, parce qu'évidemment, c'est pas du tout politiquement correct. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les gens vivent comme ça, et c'était très bon.
Et ça sera gardé au montage ?
Et ce sera gardé au montage, oui.
Les petites pattes de crabes arrachées une par une. Merci Julie Andrieux. Vous
reconnaissez
ce générique ?
Ah ben, il y avait Maïté, il faut bien que je prenne la suite. Hein.
Les carnets de Julie, ça sera samedi 12 décembre à 16h. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média qui continue. Il y aura le rappel des titres de 10h. Et puis on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un documentaire qui explore une thérapie surprenante, la thérapie par les pleurs au Japon. Notre invité, c'est le violoncelliste Gauthier Capuçon pour son album Émotion. On entend notamment le Clair de Lune de Debussy, l'Ave Maria de Schubert, mais également Edith Piaf et plein de choses. On va parler de ses concerts dans toute la France et les petits villages. C'est absolument prodigieux. Puis dans les indispensables, chronique musicale, le nouvel album de Calogero. il est comment? Et bien vous l'entendrez. Et puis on va parler cuisine encore avec des bons produits français, de la mer pour les fêtes, pas la fête des mères, de la mer pour les fêtes. Ça sera avec l'ami Laurent Mariotte. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.